Lizzie présente Reste avec moi de Ayobami Adebayo, lu par Melissa Windahl et Frédéric Lubanso. À ma mère, le docteur Olusola Famurewa, qui continue de faire de notre maison un pays des merveilles où chaque pièce regorge de livres, d'amour et de gratitude. Et en souvenir de mon père, Monsieur Adebayo Famurewa, qui a laissé derrière lui une bibliothèque et un héritage. Tu me manques toujours autant. Première partie, chapitre 1. Jos, décembre 2008. Je dois quitter cette ville aujourd'hui pour aller te voir. Mes valises sont prêtes et les pièces vides me rappellent que j'aurais dû partir il y a une semaine. Depuis vendredi dernier, Moussa, mon chauffeur, dort dans la loge du gardien au cas où je le réveillerai à l'aube afin que nous puissions nous mettre en route à temps. Mais mes valises sont toujours dans le salon où elles prennent la poussière. J'ai donné l'essentiel de ce que j'ai acquis depuis que je vis ici aux coiffeuses qui travaillaient dans mon salon. Mobilier, appareils électriques, même les aménagements intérieurs. Voilà donc une semaine que je me tourne et me retourne la nuit dans mon lit, sans télévision pour écourter mes heures d'insomnie. Une maison m'attend à Ife, juste à côté de l'université où on s'est rencontrés. Je l'imagine. C'est une maison assez semblable à celle-ci, avec de nombreuses pièces conçues pour accueillir une grande famille. Le mari, la femme et beaucoup d'enfants. J'étais censée partir le lendemain du jour où mes séchoirs ont été démontés. J'avais en tête de passer une semaine à aménager mon intérieur. Je voulais que ma nouvelle vie soit en ordre avant de te revoir. Non que je sois attachée à cet endroit. Les quelques amis que je me suis faits ne me manqueront pas. Ces gens qui ignorent la femme que j'étais avant de venir vivre ici. Ces hommes qui, au fil des années, ont pensé qu'ils étaient amoureux de moi. Une fois loin de cette ville, je ne me souviendrai probablement pas de celui qui m'a demandé en mariage. Personne ici ne sait que je suis toujours ta femme. Je ne raconte qu'un bout de l'histoire. J'étais stérile et mon mari a pris une autre épouse. Ils n'ont pas cherché à en savoir davantage. C'est pourquoi je ne leur ai pas parlé de mes enfants. J'ai voulu m'en aller après que les 3 membres du Service national de la jeunesse ont été tués. J'ai décidé de fermer mon salon et la bijouterie avant même de réfléchir à ce que je ferai ensuite, avant même que l'invitation aux obsèques de ton père n'arrive, comme une carte m'indiquant le chemin. J'ai mémorisé le nom de ces 3 jeunes garçons et je sais la matière que chacun d'eux étudie à l'université. Mon Olamide aurait à peu près leur âge. Elle aussi aurait été sur le point de quitter l'université. Quand je lis des articles sur eux, je pense à elle. Hacking, je me demande souvent si tu penses à elle, toi aussi. Bien que le sommeil me fuit, toutes les nuits je ferme les yeux et des pans de la vie que j'ai laissée derrière moi me reviennent. Je vois l'été d'oreiller en batik dans notre chambre, nos voisins et ta famille dont je pensais alors, à tort, qu'elle était aussi la mienne. Je te vois. Ce soir, je vois la lampe de chevet que tu m'as offerte quelques semaines après notre mariage. Je n'arrivais pas à dormir dans le noir et tu faisais des cauchemars si on laissait les néons allumés. Cette lampe était ta solution. Tu l'as achetée sans me dire que tu trouverais un arrangement, sans me consulter pour savoir si je voulais une lampe. Et tandis que je caressais son pied en bronze et admirais les morceaux de verre coloré qui formaient l'abat-jour, tu m'as demandé ce que j'emporterais si notre maison prenait feu. Je n'ai pas réfléchi et j'ai répondu « notre bébé », même si on n'avait pas d'enfant à ce moment-là. Quelque chose, tu as dit, pas quelqu'un. Dans mon esprit, j'étais persuadée que tu parlais de quelqu'un et tu semblais légèrement blessée que je ne songe pas à te sauver, toi. Je me force à sortir du lit et à ôter ma chemise de nuit. Je ne perdrai pas une minute de plus. Les questions auxquelles tu dois répondre, celles que j'ai étouffées pendant plus de 10 ans, me font presser le pas lorsque je ramasse mon sac à main et entre dans le salon. Il y a 17 valises ici, prêtes à être chargées dans la voiture. Je les regarde, me remémorant le contenu de chacune. Si cette maison était la proie des flammes, que sauverais-je? Je dois réfléchir parce que la première chose qui me vient à l'esprit, c'est rien. Je choisis finalement le nécessaire de voyage que j'ai prévu de garder avec moi pour les obsèques et une bourse en cuir remplie de bijoux en or. Moussa pourra m'apporter le reste plus tard. C'est comme ça. J'ai passé 15 années ici, et bien que ma maison ne brûle pas, tout ce que j'emporte, c'est un sac d'or et des vêtements de rechange. Ce qui est important est en moi, en sécurité au fond de mon cœur, comme dans une tombe, dans un lieu éternel. Ma malle au trésor aux allures de cercueil. Je sors. Il fait un froid glacial et le ciel noir rougeoie à l'horizon, tandis que le soleil se lève. Adossé à la voiture, Moussa se nettoie les dents avec un bâtonnet. Il crache dans un gobelet en me voyant approcher et range son bâton brosse à dents dans sa poche poitrine. Il ouvre la portière de la voiture, nous nous saluons et je monte à l'arrière. Moussa allume la radio et cherche une station qui démarre la journée par l'hymne national. Le portier nous dit au revoir de la main quand nous sortons du lotissement. La route s'étend devant nous, plongée dans une obscurité qui se mue en aube à mesure qu'elle me ramène vers toi. Chapitre 2. Il est chat, 1985, et les années suivantes. Déjà à l'époque, je sentais qu'ils étaient venus avec l'intention de me déclarer la guerre. Je les voyais à travers la porte vitrée. Je les entendais parler. Ils ne semblaient pas avoir remarqué que je me tenais là depuis une bonne minute. Je voulais les laisser dehors et remonter me coucher. Peut-être qu'en restant assez longtemps en plein soleil, ils se transformeraient en flaques de boue. Iyamarta avait des fesses si grosses que si elles fondaient, elles recouvriraient les marches en béton qui menaient à notre porte. Iya, mère, Marta, était l'une de mes quatre mères. Elle avait été l'épouse la plus âgée de mon père. L'homme qui l'accompagnait, Baba Lola, était l'oncle d'Akin. Ils courbaient tous les deux le dos à cause du soleil et leurs fronts plissés leur faisaient des visages repoussants. Mais dès que j'ouvris la porte, ils interrompirent leur conversation et affichèrent de larges sourires. Je savais d'avance les premiers mots qui sortiraient de la bouche d'Iya Marta. Je savais que ce serait quelque débordante démonstration d'un lien qui n'avait jamais existé entre nous.
Yejide, ma précieuse enfant!
Iya Marta sourit tout en plaquant ses mains moites et charnues sur mes joues. Je lui rendis son sourire et m'inclinai profondément pour les accueillir.
Bienvenue, bienvenue! Oh, Dieu a dû se réveiller en pensant à moi aujourd'hui, ce qui explique pourquoi vous êtes tous ici, dis-je, avant de m'incliner encore, une fois qu'ils eurent pris place dans le salon.
Ils rirent. Où est ton mari? Le retrouvons-nous ici? Demanda Baba Lola en parcourant la pièce du regard. Imaginait-il que j'avais caché Akin sous une chaise?
Il est en haut. J'irai le chercher après vous avoir servi des rafraîchissements. Que voulez-vous que je prépare pour le repas? Du foufou?
Baba Lola jeta un coup d'œil à Iya Marta comme s'ils avaient répété cette scène, mais qu'ils n'avaient pas lu ce passage-là du scénario.
Iya Marta secoua la tête de gauche à droite. Nous n'avons pas le temps de manger. Va chercher ton mari. Nous devons discuter de choses importantes avec vous deux.
Je souris, sortis de la pièce et me dirigeai vers l'escalier. Je croyais savoir de quelles choses importantes ils voulaient discuter. Plusieurs membres de ma belle famille étaient déjà venus chez nous dans cette même intention. Discuter, pour eux, ça voulait dire qu'ils parlaient et que j'écoutais à genoux. Akin feignait d'être attentif et de prendre des notes alors qu'il dressait une liste de ce qu'il devait faire le lendemain. Aucun représentant de ces délégations ne savait lire ou écrire, et ils étaient tous en admiration devant ceux qui en étaient capables. Qu'Akin consigne leurs propos sur un papier les impressionnait. Et quand parfois mon mari s'interrompait, il lui reprochait de leur manquer de respect en n'inscrivant rien. Akin planifiait souvent sa semaine entière lors de ses visites, tandis que j'avais d'affreuses crampes dans les jambes. Ses visites l'agaçaient, et il était à chaque fois tenté de lancer aux siens de se mêler de leurs affaires, mais je le lui défendais. Certes, à cause de ces discussions interminables, je finissais par avoir mal aux jambes, mais au moins j'avais l'impression de faire partie de sa famille. Jusqu'à cet après-midi-là, pas un seul membre de ma propre famille ne m'avait rendu ce genre de visite depuis que je m'étais mariée. Je réfléchis tout en montant à l'étage. La présence d'Iya Marta signifiait qu'un nouveau point allait être abordé. Je n'avais pas besoin de leurs conseils. Mon couple se portait bien sans les choses importantes qu'ils avaient à m'annoncer. Je n'avais pas envie d'entendre la voix rauque de Baba Lola entre deux quintes de tout ou de voir une fois de plus l'éclat des dents d'Iya Marta. Du reste, je pensais avoir déjà tout entendu et j'étais sûre qu'Akin partageait mon sentiment.